Je vous invite à vous tourner dans la parole de Dieu au chapitre 12 du livre de Néhémie. Dans Néhémie, nous avons vu le retour d'exil du peuple juif, du retour de Perse. Et nous avons vu dans le livre d'Esdras, premier retour, un deuxième retour, le premier conduit par Esdras, et puis par Zorobabel, et puis là par Néhémie. Néhémie, en fait, si vous vous souvenez, il est en permission de son travail auprès de l'empereur Artaxerxès, l'empereur de Perse, où il travaillait comme confident, mais d'abord comme échanson, c'est-à-dire que c'est lui qui était chargé de goûter le vin, les mets qui étaient présentés au roi. Et en fait, il a une longue période de congé sabbatique, puisqu'il est en fait présent à Jérusalem, où il est retourné pour assurer la reconstruction des murailles, après que le temple était reconstruit pendant près de 12 ans, je crois, me souvenir. Et là, après avoir reconstruit les murailles, il a entrepris de réveiller le peuple en enseignant, en lisant publiquement la loi, en jeûnant, en confessant leurs péchés. Ils se sont engagés même par écrit. On a vu la liste des noms des personnes qui se sont ainsi engagées, des responsables du peuple, les magistrats, les juges, les chefs de famille. On a vu comment, au chapitre 11, comment ils avaient dû repeupler la ville de Jérusalem. C'était aussi un service que les Juifs se portaient, pour lequel ils se portaient volontaires, venir habiter à Jérusalem. C'était à l'époque, c'était pas très couru. Aujourd'hui, c'est probablement un des endroits où l'immobilier est le plus cher au monde, que d'avoir une maison ou un terrain à Jérusalem. Et puis, au chapitre 12, on continue en faisant la liste des sacrificateurs et des lévites. Encore une fois, il y a des fois une petite confusion parce qu'on sépare les lévites et les prêtres. C'est le nom utilisé par Louis II de sacrificateur. Mais c'est ça, le mot en hébreu, c'est simplement des prêtres. Il faut savoir que tous les prêtres étaient des lévites, mais tous les lévites n'étaient pas des prêtres. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez marquer. Les prêtres font partie des lévites, mais l'inverse n'est pas. On les prenait parmi la famille d'Aaron, qui était une famille qui descendait de Lévi. Et ces lévites avaient des dispositions particulières, comme ils s'occupaient du service dans le temple. Ils n'avaient pas été confiés de territoire et ils devaient vivre de la bienveillance des autres tribus auxquelles ils apportaient le service dans le temple, et parmi eux certains qui étaient les prêtres qui offraient les sacrifices, qui étaient en quelque sorte les intermédiaires entre le peuple et Dieu, ou entre Dieu et le peuple. Ça, c'était l'ancienne alliance. Aujourd'hui, vous avez un accès direct. Le voile qui séparait le saint lieu du saint des saints a été déchiré, de haut en bas plutôt, par Dieu. Lorsque le sacrifice a été offert, le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Ici, on a donc la liste des sacrificateurs et des lévites. Et verset 1 du chapitre 12, il est dit: voici les sacrificateurs, les lévites qui remontèrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraïa, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atouch, Shekania, Rehum, Meremot, Ido, Guinetoy, Abiya, Miami, etc. Ce furent là les principaux sacrificateurs et leurs frères au temps de Josué. Donc il est remonté dans le temps, il est remonté au livre d'Esdras, aux événements décrits dans le livre d'Esdras, avec le retour d'Esdras et de plus tard de Zorobabel. Et puis il continue en disant « Josué engendra Joachim », verset 10, « Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Joïada, Joïada engendra Jonathan et Jonathan engendra Yadoua. » Or tous ces noms, pour nous, c'est un peu, encore une fois, c'est un peu rébarbatif, on a du mal à les prononcer, on a du mal à les situer. Mais lorsqu'on s'intéresse, pardon, à vérifier l'authenticité de la Bible, c'est fabuleux de suivre ces noms, de voir les recoupements, de voir les autres passages qui citent ces personnages, d'établir des chronologies. Quelquefois, c'est pas sans problème, parce que souvent, un peu comme aujourd'hui, des descendants de certaines personnes, certains personnages, portaient le même nom. Mon fils Sébastien, en fait, son vrai nom, c'est Paul. Paul Sébastien. Pourquoi Paul ? Parce que dans la famille, en Corse, il y avait quelqu'un qui s'appelait Paul. Et donc, des fois, pour honorer les ancêtres, pour honorer les familles, on donnait le même nom. Et ça peut porter, des fois, apparemment, il y a le dernier qu'on a cité au verset 11, le Yadoua. Il y a probablement plusieurs grands prêtres qui ont porté ce nom. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les critiques de la Bible utilisent ces généalogies pour trouver des erreurs, entre guillemets, et pour dire qu'on ne peut pas compter sur la Bible. Mais généralement, et tant que ce n'est pas fait, c'est encore en recherche, c'est la Bible qui a raison. Et c'est l'histoire qui doit reconnaître qu'en fait ce qui est écrit dans la Bible est bien juste. Il est question ensuite des chefs de famille. Les chefs de famille, c'était encore dans les tribus d'Israël qui étaient revenus, il y avait des familles. Et là aussi, tous ces noms montrent que Dieu s'intéresse aux individus. Nos gouvernements s'intéressent aux statistiques. S'intéresse à nos votes. On est des numéros dans les sondages. Dieu ne procède pas à des sondages, il nous connaît tous individuellement. Il s'intéresse à chacun de nous en particulier. Vous avez peut-être l'impression que vous ne comptez pas aux yeux de Dieu, que vous êtes un numéro parmi d'autres. Mais c'est complètement faux. Dieu vous connaît par nom. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Nous avons des fois l'impression que nous cachons des choses à Dieu. Réveillons-nous. Dieu connaît ces choses de toute éternité. Il sait que nous allons céder à telle ou telle tentation. C'est pas lui qui le cause, mais comme il est en dehors du temps, il voit le passé, le présent, le futur dans un éternel présent. Il voit toutes choses. Et il est dit que ces personnes, ces fils de Lévi, verset 23, chefs de famille, furent inscrits dans un livre de chroniques jusqu'au temps de Yohanan, fils d'Eliashib. On va voir au chapitre 13 qu'il sera question en détail de ce sacrificateur du temps de Néhémie, Eliashib. Et ils étaient inscrits dans un livre. Et vous aussi, si vous appartenez à Christ, si vous êtes venu à lui, en le reconnaissant comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, la Bible vous explique que vous êtes inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Il est même probable que toutes les personnes qui naissent sont inscrites dans ce livre jusqu'à ce qu'elles commettent le péché impardonnable de refuser, par l'influence du Saint-Esprit, de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu mort pour vos péchés. Pourquoi je pense ça ? Parce qu'il est dit que plusieurs endroits ne me gomment pas du livre de vie. C'est comme votre nom est inscrit, mais si vous décidez et vous êtes libre, Dieu ne vous force jamais, vous êtes des grandes personnes, entre guillemets, et vous avez le droit de dire non à Dieu. Dieu pourrait nous forcer, mais à ce moment-là, l'amour que nous lui porterions serait un amour de marionnette. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est un amour sincère. Pour qu'il y ait un amour véritable, il faut qu'il y ait la liberté de dire non à la personne. Si un jeune homme s'approche d'une jeune fille en lui disant « Dis-moi que tu m'aimes », en lui mettant un pistolet derrière le dos, elle va peut-être lui dire, si elle est pas folle, elle va lui dire « Oui, je t'aime ». Elle va sans doute pas y mettre le ton qui va réjouir le cœur du jeune homme, mais ça sera forcé, ça sera faux. Et de la même façon, Dieu nous libère, mais sachez que la chose la plus importante, c'est pas votre passeport ici-bas, c'est pas votre droit, votre carte de travail, c'est votre inscription dans le livre de vie. Parce qu'un jour, on regardera, ah non, désolé, vous n'êtes pas dans ce livre. Ces personnes que Dieu aimait, que Dieu connaissait, il est dit qu'elles étaient, verset 24, les chefs des Lévites, Hachabia, Sherebia, Josué, fils de Canmiel, et leurs frères vis-à-vis des autres, étaient chargés de louer et de célébrer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu, groupe par groupe. Matania, Baboukia, Abdias, Meshulam, Talman et Akoub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Il y avait aussi des gens qui s'occupaient d'accueillir ou non les personnes qui voulaient venir au temple. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Yotsadak, au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur scribe. Donc, il y avait une occupation essentielle, c'était la louange et la célébration de l'Éternel. En tant que chrétien, notre principale assignation, description de tâche, c'est de célébrer Dieu, de le louer, de lui dire combien il est merveilleux. Souvent, nous oublions cela, nous nous concentrons sur des tâches du travail. Et ces tâches, ce travail, sont pas mauvais en eux-mêmes. Et Dieu nous sauve et nous laisse ici-bas pour que nous continuions à œuvrer pour le royaume, pour l'extension du royaume, pour parler de lui. Mais avant toute chose, et c'est ce que nous ferons dans l'éternité, ce sera de chanter la louange, la gloire de Dieu. Il y a l'image très prosaïque et très, très triste et très fausse du fait qu'on va s'ennuyer au paradis avec notre longue robe blanche, notre petit lyre doré, notre petite guitare ou lyre, petite harpe dorée, assis sur le bord d'un nuage en s'embêtant pour le restant de l'éternité. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'abîme de l'enfer. Ce n'est pas du tout le cas. On avait, certains d'entre vous se rappellent d'elle, une bonne amie chrétienne, très évangéliste, très zélée. Et je me souviens d'une conversation qu'elle avait avec un ami musulman qu'elle avait amené à une étude biblique. Et elle continuait, elle ne cessait pas de lui dire « L'éternité dure très longtemps, Moustakim. » L'éternité dure très longtemps, Moustakim. Et on avait pris cette expression et on se la disait des fois les uns entre nous. L'éternité est dure très longtemps, Moustakim. Si vous imaginez l'origine du monde, le jour où les choses se sont mises en place, jusqu'à maintenant, ou même jusqu'à la fin de notre monde, cette durée de temps sera comme même pas une heure ou un jour dans le temps de l'éternité. L'éternité va être passée à célébrer Dieu, à le voir tel qu'il est, à le connaître comme on l'a jamais connu, à nous connaître les uns les autres comme nous ne nous sommes jamais connus. Des fois, les personnes demandent, est-ce qu'on va reconnaître, on va se reconnaître dans le paradis, au paradis. Et un pasteur, un écrivain, un auteur, un prédicateur anglais disait qu'on ne se sera jamais connu jusqu'à ce qu'on soit en présence de Dieu. Ils vont célébrer et on va voir que non seulement ils se sont donnés à Dieu lorsqu'ils ont signé cet engagement à servir Dieu, à ne pas oublier la maison de notre Dieu. Verset la fin du chapitre 10, il disait « Ainsi nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu ». Ils avaient promis de donner la dîme, de s'occuper des lévites, des prêtres. Et là, ils vont, après s'être donné eux-mêmes à Dieu, ils vont lui donner la louange. Et puis, on verra à la fin du chapitre 12 qu'ils vont lui donner aussi de leurs ressources. Dieu nous donne tellement. Et lorsque nous lui donnons le sacrifice de louange, ça c'est une expression dans Hébreu. Je vous invite d'ailleurs à vous y tourner brièvement. On va regarder Hébreu, chapitre 13, verset 15. On n'est pas sûr de qui est l'auteur de ce livre aux Hébreux. Certains pensent que c'était peut-être Apollos, d'autres pensent que c'était plutôt Paul ou peut-être quelqu'un d'autre. Il est dit, « Par lui, nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Parlant de Dieu et de Jésus qui a souffert hors de la porte, sortons, verset 13, donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente. La Jérusalem qu'ils repeuplaient, pour laquelle ils avaient reconstruit le mur, ce n'était pas une cité permanente. Dieu qui est l'architecte va construire la nouvelle Jérusalem. Mais verset 15, il disait, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc il y a ce sacrifice de louange. Pourquoi est-ce que c'est un sacrifice? Parce que notre vieille nature aime recevoir la louange. et la donner à celui seul qui la mérite, Dieu, c'est quelque chose d'un peu difficile. Nous sommes prêts à porter au nu, à louer, à adorer des idoles, que ce soit des personnes ou des systèmes, des pensées, des préoccupations. Nous sommes tellement prêts à nous emballer pour nos artistes, nos vedettes, mais ils ne sont pas dignes de cette louange. Et ce sacrifice de louange, il est dit que c'est le fruit de lèvres qui portent, qui confessent le nom de Jésus. Confesser le nom de Jésus, acte 4, 12, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes sous les cieux par lequel nous devons être sauvés que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Il est celui qui veut nous donner une joie impérissable. Il fait, on va revenir à Néhémie, mais juste pour voir ce que nous dit la Nouvelle Alliance dans Jean. Il nous dit qu'il nous laisse sa joie, qu'il nous laisse sa paix. On a dit que la joie, la paix, ce sont des fruits de l'esprit, dans Galates 5. Verset 27 de Jean 14, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Il nous donne une joie. Verset 22 du chapitre 16 dans Jean. « Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. » La joie que Dieu nous donne, personne ne peut nous l'ôter. La joie, on en a déjà fait mention en étudiant le chapitre 8, dans lequel il est dit que notre force est la joie du Seigneur. La joie de l'Éternel est votre force. La joie, c'est différent du bonheur. Bonheur, c'est un peu la chance. Étymologiquement, c'est le bon heur. Heur, c'est ce qui a donné le mot de heuristique en mathématiques ou en informatique. C'est un processus qui fait qu'on arrive à des choses plutôt qu'à d'autres, un peu par hasard. Et c'est ça le bonheur. On est heureux un jour parce qu'il nous arrive quelque chose de bien. Mais le lendemain, cette chose nous est retirée ou une mauvaise chose arrive et c'est plus du bonheur, c'est du malheur. Et là, on est déprimé, on est fichu. Alors que la joie, elle ne dépend pas des circonstances. La joie, elle dépend de notre relation de la paix que nous avons avec Dieu dans nos cœurs. Et c'est pour ça que des personnes qui vivent des choses éminemment difficiles, terribles, peuvent avoir la force de continuer à sourire, peut-être pas extérieurement, mais intérieurement. Il y a cette assurance que pour l'éternité, cette longue période de temps, rappelez-vous Moustakim, Woody Allen disait que l'éternité c'est très long, lui aussi il faisait de l'humour, il fait de l'humour. L'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Pour cette éternité, nous avons cette assurance que nous sommes en paix, que notre âme est acceptée, que Dieu nous accepte, Dieu nous aime, Dieu nous bénit. C'est quelque chose de remarquable, quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est simplement quelque chose qu'on peut recevoir en acceptant Jésus-Christ, qui lui a payé le prix de nos péchés, et qui fait que si nous nous reconnaissons en lui, si nous le reconnaissons comme notre maître, si nous venons à lui, nous prononçons ce nom comme étant celui de notre sauveur, alors pour l'éternité, nous sommes en paix avec Dieu. Et ça, ça n'a pas de prix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous voler cette joie. Les soucis du monde, le fait qu'il faille payer nos factures, nos impôts, le fait que le docteur peut nous dire « Aïe, il y a une tache sur votre radio, c'est pas bon signe, on va vous envoyer faire des examens complémentaires », l'annonce qu'on a une maladie grave, l'annonce d'une personne chère qui est décédée dans un accident ou de maladie ou de vieil âge. Toutes ces choses sont des choses qui ont tendance à nous voler notre joie. Pierre, dans sa deuxième épître, nous disait que sa divine puissance, verset 3 du chapitre 1 de 2, deuxième épître de Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et il continue en disant que nous avons une joie, on peut se réjouir d'une joie indicible, une joie que l'on ne peut pas décrire. Nous sommes appelés à tressaillir de joie. Cette joie, c'est quelque chose qui est merveilleuse parce que c'est une source intarissable de paix. On a dit que la joie, c'est la paix qui danse, la paix, c'est la joie qui se repose. Mais tout ça vient d'un cœur en harmonie avec le cœur de Dieu. Jésus disait souvent que vous serez bénis. Bénis, c'est le mot makarios, c'est le nom qui désignait la joie des dieux les légendes grecques, la mythologie, j'y arrive. C'est aussi la joie de Dieu dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'équipe de foot de Nice va jouer contre l'équipe de Limassol, qui est une ville de Chypre. Chypre, c'était dans le nom grec, c'était Makarie, l'île bénie, parce qu'il y avait un climat merveilleux, il y avait plein de ressources agricoles, de pêche. Si vous voulez des renseignements sur Chypre, vous pouvez parler à Lindsay, qui a passé du temps comme missionnaire là-bas, auprès d'une famille qui est toujours là-bas. Cette joie, c'est ce que Dieu veut que nous connaissions, et c'est ce qu'il veut que nous lui reconnaissions aussi. On doit le remercier pour cette joie qu'il nous donne, et il y a une relation qui s'instaure où lorsque nous chantons, nous prions pour remercier Dieu dans une attitude d'émerveillement, de gratitude aussi. Cette joie, elle fait du bien aux hommes, et Dieu, on sait qu'il, Si tant est qu'il ait un sourire, Dieu sourit lorsqu'il entend la louange. Parce que ça lui revient, il en est digne, il est le seul qui en soit digne. Et pour célébrer Dieu, il est décrit l'inauguration de la muraille de Jérusalem à partir du verset 27. Lisons ensemble, page 498, quelques versets. Lors de l'inauguration, verset 27, lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer l'inauguration dans la joie par des chœurs et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres, les chanteurs, se rassemblèrent des alentours de Jérusalem, des villages des Netophatiens, de Beth-Gilgal, des campagnes de Geba et d'Azmaveth, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Ils se rassemblent pour chanter avec des instruments. Ils n'avaient pas de guitare, ni de caronne, ni de batterie, ni de piano électrique, ni de synthétiseur. Ils avaient des cymbales pour la rythmique. Ils avaient des luths comme guitare, des harpes, peut-être comme guitare basse. Mais on voit la place des instruments et aussi des chanteurs. Ils avaient des chœurs. Aujourd'hui, on dirait des chorales. Au passage, si parmi vous, il y a des gens qui ont un don pour mener des chorales, une chorale, c'est quelque chose que vous pouvez envisager peut-être, parlez-en à Tonio, à Lindsay. On a souvent pensé que si on avait un groupe de gospel et qu'on mettait une affiche dans la rue, réunion pour du chant gospel samedi matin 8h ou 10h, on aurait des gens qui viendraient. Le gospel ouvre toutes les portes des mairies communistes, les portes des mairies socialistes, les portes des mairies UMP, les écoles. Le gospel a, Dieu merci, encore un grand appel. Malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent juste le rythme, la musique, l'envie de danser qui est appréciée, pas le message de la bonne nouvelle. Mais bien sûr, si on a une chorale gospel, on en profite et on peut annoncer cette bonne nouvelle qui est ce que veut dire le mot gospel, Godspell. Ils sont réunis. On voit que il y avait certains qui s'étaient installés encore une fois en dehors de la ville parce que c'était plus tranquille, ou ils étaient revenus dans les cités d'où ils venaient avant l'exil. Mais là, ils réalisent qu'en fait, il y a l'intérêt commun qui demande leur présence à Jérusalem et ils reviennent pour cette grande célébration. Et puis, une chose intéressante, verset 30, les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Avant de célébrer, il faut se purifier. Si vous m'invitez à dîner chez vous, ou quand vous m'invitez à dîner chez vous, quand vous m'avez déjà invité à dîner chez vous, j'ai apprécié que les assiettes étaient propres au début du repas. On célèbre davantage un bon repas lorsque la vaisselle a été faite avant. Et de la même façon, lorsqu'on veut louer Dieu, si on le fait d'un cœur qui est encore sale par le péché, par des choses que nous devons confesser, on ne veut pas pouvoir être en harmonie avec Dieu, notre louange ne va pas impressionner Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des sacrifices, disait David, mais un cœur contrit et repentant. Il faut, il faut venir se purifier. Là, ils offraient sans doute, ce n'est pas précisé, mais des sacrifices de confession, des sacrifices, des holocaustes pour se consacrer entièrement à Dieu. Mais il y avait une purification des cœurs, mais aussi du peuple, et même des portes et de la muraille. Certains pensent que même que le mot là de purifier, ça peut être, il faisait brûler de l'encens, de la fumée qui chassait les miasmes. Et pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut pouvoir évacuer le péché. Cette semaine, j'ai eu un combat de plombier. Depuis quelque temps, notre lavabo, notre évier plutôt dans la cuisine, s'écoulait pas très bien. Alors vous savez ce qu'on fait, on met un peu de produit la nuit, puis on espère que ça va manger, que les enzymes vont nettoyer et faire briller le tuyau de l'intérieur. Et puis on avait essayé quelques fois, ça allait un peu mieux, mais on pouvait pas trop remplir le lavabo, sinon ça commençait à remonter dans l'autre lavabo. Je vois que certains ont déjà eu ce genre d'expérience. Et en fait, on pouvait pas recevoir l'eau fraîche parce qu'il y avait un bouchon. Il y avait un bouchon quelque part dans le tuyau. Et le problème, c'est qu'on a toujours un petit truc pour déboucher les tuyaux, mais qui va pas assez loin. Nancy, la pauvre, devait aussi surveiller la machine à laver, parce que la machine à laver qui se branchait sur la même canalisation, souvent débordait. Et je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. Pour recevoir la bénédiction de l'eau fraîche, il fallait pouvoir dégager. Finalement, je suis allé à Leroy Merlin. Non, on avait trouvé un système sur une pub de Carrefour qui disait que ça allait... C'était un truc qui avait remporté le prix du concours Lépine. Un petit truc qu'on mettait avec un tuyau en caoutchouc qui devait se gonfler et jeter un jet 20 fois plus fort que l'arrivée d'eau. On pouvait pas le mettre parce que je l'ai ramené, j'ai acheté un furet, on appelle ça un furet, un flexible pour déboucher. Et je suis revenu à la maison en disant, ça y est, Nancy va être impressionnée, je vais déboucher. Et j'ai fait un premier essai, j'ai pensé que c'était bon, et puis ça coulait toujours pas très bien. Et j'avais vu, il y avait le modèle supérieur, plus costaud, beaucoup plus long, il faisait 7,60 m au lieu de 4,30 m. J'ai dit, avec ça, là, ça va dégager. Je suis reparti à Leroy Merlin, une heure et demie de route, etc. J'arrive, je mets le tuyau, ça force un peu, je pousse. Ça a l'air de dégager, je retire le tuyau, tiens, ça se rebouche un peu, je retire, je referme le lavabo, je fais couler de l'eau, et là, aux surprises, l'eau monte, et puis ne bouge plus du tout. Le remède était pire que le mal. Nancy a fait la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain le soir. Et j'étais tellement dégoûté, on a mis un de ces produits, j'en ai mis 10 fois plus qu'ils disent. Et j'ai pas touché au truc pendant 3 jours parce que j'étais déprimé. Et puis finalement, j'ai recommencé. Hier matin, j'ai remis le gros tube. Là aussi, il a bloqué. J'ai repris le petit tube, le petit flexible. Je l'ai fait tourner. Et puis j'ai pu retirer quelque chose, puis j'ai fait couler de l'eau, puis à un moment donné j'ai entendu un glou 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 glou. Ah. J'ai finalement redonné un coup avec le gros furet, et puis là, aux merveilles, j'ai rempli le lavabo, j'ai ouvert la bonde. J'étais heureux toute la journée hier. Et bien sûr, quand on est pasteur, on se dit quand il y a des choses importantes comme ça, il y a une illustration. Et pour moi, l'illustration, c'était que si on ne confesse pas le péché, si on ne le laisse pas partir à la croix, il fait blocage. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont purifiés et puis ils ont pu faire la fête. Alors, on va pas lire tout en détail les passages, mais regardons. « Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, je formai deux grandes chorales, deux grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit, sur la muraille, vers la porte du fumier. » Vous voyez, je vous raconte pas l'histoire. « Derrière eux marchaient Osée et la moitié des chefs de Judée, etc. » Et puis, il y en avait une autre, le second cœur, verset 38, se mit en marche du côté gauche. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Donc, ils sont partis, ils ont fait deux chorales, l'une suivait Esdras, l'autre était avec Néhémie, et ils ont marché sur la muraille. Vous vous souvenez, au chapitre 4, verset 3, les ennemis de Jérusalem, d'Israël, disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir faire un vrai travail de maçon parce qu'ils utilisaient des parfumeurs, des chanteurs, n'importe qui. Ils allaient éclore leur muraille. Il suffirait d'un petit renard pour qu'il passe dessus, alors que le renard est généralement léger et très, très adroit, pour faire écrouler toute la muraille. Et là, pour montrer à leurs ennemis que la muraille, elle était faite pour durer, que c'était une œuvre qui avait été accomplie par Dieu. Ça, c'était dans Néhémie 6, 16, c'était l'ouvrage de Dieu. Ils font défiler tous les chanteurs, l'orchestre. C'est la fête. C'est le festival de musique. C'est le festival de jazz sur les murailles de Jérusalem. Ils marchent, ils se retrouvent au temple. Et ils s'arrêtèrent, verset 40, les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Et là, il est dit, verset 42, les chantres se firent entendre. Il y avait quelqu'un qui les contrôlait. Les gens, verset 43, offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un autre aspect du témoignage pour l'Église, pour le peuple de Dieu, c'est la joie que l'on entend au loin. Et la joie, elle se trouve aussi lorsqu'il y a cet amour les uns pour les autres. On est joyeux, on est content de se retrouver. La joie de Jérusalem s'entendait au loin. Est-ce que votre joie, elle s'entend au loin? Alors, elle peut s'entendre physiquement par des ondes de son, mais elle peut s'entendre aussi par votre sourire. Elle peut s'entendre par votre bonne humeur, elle peut s'entendre par vos attitudes. Et encore une fois, un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est une contradiction de termes. Parce que des hommes, nous avons le plus de raisons d'être remplis de joie. Nous avons la joie, nous n'avons pas seulement le bonheur. Et encore une fois, le bonheur, il peut être suivi de périodes difficiles, de malheurs, entre guillemets. Mais la joie, elle demeure, pour que votre joie demeure. Et est-ce que dans le quartier, on entend notre joie? Il y a des gens qui sont venus au culte parce que les fenêtres sont des fois ouvertes. Et lorsque on est dans la louange, on chante des chants avec de la joie, de la conviction, de la sincérité, ça s'entend. Je me souviens du pasteur Nick Long à Ziegen qui disait que les gens se convertissaient. À l'époque, ils étaient dans un bâtiment, il fallait monter des escaliers pour arriver dans la salle de culte. Ils entendaient la louange et les gens étaient bouleversés par la louange. Et là aussi, si nos cœurs ne sont pas purs, on peut chanter, on peut faire du bruit, mais ça ne va pas toucher les gens, ça ne va pas toucher les cœurs. Ils s'étaient donnés à Dieu, ils lui donnent la louange, ils le louent, ils l'adorent par des chants, par des instruments, mais vont aussi l'adorer avec leur porte-monnaie. Lisons verset 44. « En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les parts assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs, les prêtres et les lévites étaient à leur poste. Observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu, le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers selon l'ordre de David et de son fils Salomon, car autrefois du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et des portiers jour après par jour, ainsi que les parts sacrées aux Lévites, et les Lévites donnèrent des parts sacrées aux fils d'Aaron. » Il y avait des prescriptions dans la loi de donner des dîmes, des offrandes pour le service du temple. Et si les prescriptions du Nouveau Testament ne sont pas aussi précises, il n'est pas dit qu'on doit donner un dixième de nos ressources. Il est dit qu'en fait, on doit donner dans la joie. Et en fait, si on donne dans la joie, on ne va pas nécessairement compter, savoir si c'est 10% ou 10,5% ou 7%. Le Seigneur va vous mettre sur le cœur de donner. Et tout ce qui compte, c'est que vous lui obéissiez. Et c'est aussi une démarche de confiance, de reconnaître en donnant une partie de vos revenus, une partie de votre temps aussi, en servant à l'Église, une partie de vos pensées, une partie de votre journée à Dieu, par la lecture, par la prière. Vous lui reconnaissez en fait le droit de tout posséder. C'est parce que tout vient de lui. Et lorsque vous lui donnez quelque chose, c'est pour dire oui, cette petite portion, c'est pour te dire que tout vient de toi, Seigneur. Et je te remercie. Et c'est quelque chose qui est établi dans la parole de Dieu, de donner dans la joie. Il y a plusieurs passages, et on en parle lorsque on parle généralement pas de la dîme ou de ces choses. Sachez que pour ceux qui se demandent, on passe pas dans les rangs avec un panier ou des corbeilles à offrandes. C'est quelque chose que Et il y a une importance de louer Dieu avec vos offrandes, mais on vous laisse faire ça en tête à tête avec Dieu, selon ce qu'il vous met sur le cœur. Il y a des boîtes, une boîte dans laquelle vous pouvez mettre des offrandes pour l'Église. Et encore une fois, c'est l'entretien du lieu de culte, toutes les frais qui sont associés. Pour l'instant, il n'y a pas de somme. Les sommes versées ne vont pas pour des salaires du pasteur ou des pasteurs. Les pasteurs sont individuellement soutenus par des dons d'amis ou d'églises. Éventuellement, lorsque nous aurons fini de rembourser le prêt, nous serons à même, je pense, à moins que votre générosité augmente de façon substantielle, on n'est pas en mesure de payer un salaire à quelqu'un. Mais c'est aussi quelque chose vers lequel pour laquelle nous prions. Et il est bon que tout ouvrier mérite salaire. Et c'est une prescription que l'on trouve dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, il y a une merveilleuse promesse dans Malachie. Le prophète qui était contemporain de cette période de l'histoire d'Israël, dans laquelle il invitait le peuple des Juifs à mettre Dieu au défi, apporter à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait provision dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. C'est un domaine de foi que de donner. Des fois, on se demande comment on va pouvoir payer les factures auxquelles on doit faire face. Mais Dieu dit, si vous me faites confiance, si vous venez m'honorer en me donnant une partie, pas nécessairement un dixième, peut-être plus, peut-être moins ou beaucoup moins, faites-moi confiance, mettez-moi au défi. Regardez si je ne vais pas vous bénir de façon fantastique, en retour. Et c'est vrai que quand on n'a jamais fait ça, au début on est un peu sceptique, on le fait un peu en tremblant. Et puis on prend l'habitude de voir comment Dieu répond, comment Dieu évite les dépenses inattendues, la machine à laver qui tombe en panne, le tuyau bouché pour lequel il faut venir faire venir le plombier, qui vous prend déjà 100 euros de déplacement, et etc. Toutes ces choses-là, c'est un domaine de foi, mais c'est quelque chose qui est aussi une façon de faire confiance à Dieu. Il y a l'histoire de cet homme qui voulait donner en Angleterre un shilling, donc c'est pas beaucoup d'argent, et qui s'était trompé, qui avait donné une pièce de une guinée, qui vaut beaucoup plus cher, dans le panier qui passait, et s'apercevant de son erreur, il a dit « Attendez, j'ai fait une erreur », et il allait pour reprendre sa belle grosse pièce, et la personne qui passait le panier a dit « Ah non, une fois dedans, c'est pour toujours dedans. » Et le gars a dit « Bon, c'est pas grave, je vous laisse la pièce, Dieu me récompensera. » Et le gars lui dit « Ah non, il vous récompensera juste pour un shilling. » C'est ce que notre cœur veut donner qui compte. Alors, on voit donc cette merveilleuse célébration par la louange, et je remercie aussi tous ceux qui ont participé, ceux qui sont venus, ceux qui ont aidé à la célébration du 20e anniversaire. C'est aussi une façon de rendre gloire à Dieu. Là, c'était la construction de la muraille était achevée et ils rendaient gloire à Dieu et ça se faisait savoir autour d'eux. Les gens se disaient, ils ont un Dieu incroyable, on n'a pas un Dieu comme ça. Et ils ont vraiment été touchés parce qu'ils se sont engagés auprès de Dieu, ils se sont consacrés, ils ont célébré par la louange, mais ils se sont aussi donnés, ils ont aussi engagé leur confiance en Dieu par la foi, leurs ressources. Et ça, c'est un bon exemple, je crois, d'une façon de vivre pour avoir cette joie que personne ne peut nous prendre, cette joie qu'on ne peut pas déranger. Et ça vient du cœur, ça vient de ce que nous avons donné notre cœur au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet encouragement à nous mettre devant toi pour confesser nos péchés, pour pouvoir recevoir la bénédiction que tu veux nous donner, Seigneur. Seigneur, lorsque nous pensons à tes bénédictions, à ton attitude d'amour, Seigneur, nous ne pouvons répondre que par la gratitude, Seigneur, avoir cette attitude de gratitude. Aide-nous à être un peuple qui chante, Seigneur, qui chante fort parce que nous sommes convaincus de ce que nous chantons, Seigneur. Voyons aussi dans cet exemple que nous devons confesser nos péchés, Seigneur, pour que tu nous laves de l'intérieur, pour que notre joie soit vraiment complète, Seigneur. Tu nous promets que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice, Seigneur. Et lorsque nous faisons cela, Seigneur, nous pouvons avoir cette communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous avons cette joie complète, Seigneur. Le monde recherche cette joie, ne la trouve pas, Seigneur. Aide-nous à la vivre pour pouvoir la communiquer. C'est notre prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur.